Mais ce matin, c'est quand même la fin de la période de l'Avent, et donc c'est aussi pour nous l'occasion de nous réjouir de cette merveilleuse nouvelle. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour se révéler à nous, pour payer à notre place le prix de nos fautes, et pour que tous ceux et celles qui placent leur confiance en lui soient sauvés et qu'ils aient la vie éternelle. Noël, la venue du Christ, c'est la fin d'une attente. Une attente très très longue. Bon, pour nous, ça dure généralement quelques semaines, mais c'est une attente qui a duré des milliers d'années. La première promesse dans la Bible au sujet de la venue d'un sauveur, on la trouve au tout début du premier livre de la Bible, Genèse chapitre 3, avec Adam et Ève. Et on l'a vu dimanche après dimanche, dans cette période de l'Avent, dans cette attente extrêmement longue, eh bien Dieu a petit à petit renouvelé et précisé sa promesse tout au long de l'histoire de la Bible. À Ève, Dieu a promis que le Sauveur serait un humain, né d'une femme. À Abraham, Dieu a promis que le Sauveur viendra dans sa descendance. À Moïse, Dieu promet que le Sauveur sera un prophète, encore plus grand que ne l'était Moïse. À David, Dieu promet que le Sauveur sera de sa lignée, roi pour toujours sur le peuple de Dieu. Au prophète Ésaïe, Dieu promet que le Sauveur naîtra d'une jeune fille non mariée. À l'époque, ça sous-entendait qu'elle serait vierge. Au prophète Michée, Dieu promet que le Sauveur naîtra dans la ville de Bethléem. Philippe nous l'a rappelé durant le temps de louange. Noël, la venue du Christ, ça n'a pas été une attente figée, une attente statique, inactive. Sur des milliers d'années, des hommes et des femmes ont suivi Dieu, ont suivi sa volonté, afin que s'accomplisse le plan parfait de salut de Dieu pour ce monde. Et les deux dernières personnes à s'être mis en chemin dans la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu, Philippe nous l'a rappelé, ce sont Marie et Joseph. La venue du Sauveur n'a pas été de tout repos durant ces milliers d'années d'attente, mais grâce à la fidélité et à la toute-puissance de Dieu, grâce aussi à tous ceux et celles qui ont cru en cette promesse et qui ont suivi le plan de Dieu par la foi, même sans comprendre parfaitement ce plan, grâce à tout cela, enfin le Sauveur est né, conformément à toutes les promesses qui avaient été faites. Jésus est bien né de la descendance d'Ève, c'est un humain. Il est né dans le peuple d'Abraham, il sera un prophète plus grand que Moïse, il est de la lignée de David et roi pour toujours sur le peuple de Dieu, il est né d'une jeune fille encore vierge et il est né dans la ville de Bethléem. Les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas toujours dans l'immédiat, mais elles s'accomplissent. C'est une certitude, car Dieu est fidèle et il est tout-puissant. Mais ce qui est encore plus merveilleux, je trouve, dans cette histoire du salut, c'est que Dieu ne veut pas accomplir ses promesses seul. Il le peut, sans problème, il n'est pas limité, mais il ne le veut pas. Il veut que tous ceux et celles qui croient en lui puissent le rejoindre, puissent participer avec lui à ses œuvres, à l'accomplissement de ses promesses. C'était vrai pour tous les croyants qui ont vécu cette attente de la venue du Messie, mais c'est encore vrai pour nous également. Les projets de Dieu, les promesses de Dieu sont encore loin de leur terme. Et aujourd'hui également, le Seigneur appelle tous ceux et celles qui croient en lui à le rejoindre. À le rejoindre pour trouver le salut et la joie dans sa présence, mais aussi ensuite pour participer avec Dieu à ses œuvres, à l'accomplissement de ses promesses. Quel cadeau merveilleux! Je vous offre un petit cadeau en avance. Le cadeau de pouvoir devenir participant d'une œuvre aussi incroyable. Aux côtés du Créateur de toutes choses, coopérant avec le roi, le Seigneur, le seul vrai Dieu de l'univers. Être appelé par Dieu, le rejoindre, l'adorer dans la joie et le suivre. J'aimerais simplement ce matin vous montrer que l'on trouve tout cela dans le récit de la naissance du Christ. Être appelé par Dieu, le rejoindre, l'adorer dans la joie et le suivre. Et tout d'abord, cela commence toujours par un appel. par Dieu qui vient frapper à la porte de notre cœur, qui vient nous questionner, qui vient nous titiller, voire carrément parfois nous éblouir de sa grandeur et de son amour. Et on a un peu tous les exemples dans le récit de Noël. Les mages. Les mages ont entendu l'appel de Dieu sous une forme un peu particulière, une étoile. Appel lumineux, mais je trouve que c'est quand même un appel un peu discret. Une étoile au milieu de toutes les autres, c'est un appel discret. Il n'y a qu'eux qui l'ont vu, qui l'ont reconnu. Pourtant, les étoiles, tout le monde peut les voir. C'était un appel discret qui s'adressait seulement à eux. Parce qu'ils étaient des savants. Les mages étaient des savants à cette époque-là. Désolé, ce n'étaient pas des rois. Désolé. Ils observaient et ils étudiaient les étoiles. Et donc Dieu, pour les appeler, eux et uniquement eux, Dieu a choisi un moyen que eux seulement comprendraient. Une étoile nouvelle, au milieu de millions d'autres. C'est un appel discret, personnalisé, adapté à ce que Dieu veut appeler. Les bergers, pour leur part, ont eu droit à un appel époustouflant avec son et lumière, trompette, chorale d'anges. Et nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 2, on le relit, on l'a lu tout à l'heure, « Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit, mais l'ange les rassura. « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. » C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Comparé à l'étoile, c'est un peu plus clair comme appel et c'est un peu plus glorieux qu'une étoile au milieu de toutes les autres. C'est très clair, le message est annoncé, des indices sont donnés, vous trouverez un enfant, ça sera comme ça, le message est clair. Mais c'est peut-être ce dont les bergers avaient besoin pour prêter l'oreille à l'appel de Dieu. Les mages, un appel plus discret, personnalisé, leur suffisait. Les bergers avaient besoin, peut-être, de plus. Comment Dieu s'y prend-il avec vous ? Si vous l'avez déjà rencontré, comment Dieu a-t-il fait pour vous transmettre son appel personnalisé pour vous ? Ou si vous ne l'avez pas encore rencontré, est-ce que dans votre vie, Dieu n'est pas déjà à l'œuvre, en train de vous appeler, avec patience, avec amour, ou peut-être avec son et lumière, comme les bergers ? Dans le récit de Noël, tout comme aujourd'hui, avec Dieu, tout commence par entendre, recevoir, reconnaître, son appel, être appelé. Mais cela nécessite une réponse. Si Dieu nous appelle à lui, eh bien, il nous faut alors le rejoindre. Et le rejoindre, comme pour l'appel, eh bien, c'est différent pour chacun et chacune d'entre nous. Pour les bergers, rejoindre le Christ a été plutôt simple. Ils étaient tout prêts. Ils n'ont pas eu beaucoup de chemin à faire. Le texte de Luc, chapitre 2, nous dit « Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. » Ils étaient dans les environs. Répondre à l'appel de Dieu, c'est fait assez simplement pour eux. Pour les mages, c'est autre chose. Le texte de Matthieu, chapitre 2, nous dit à leur sujet, « Des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. » Alors attention, l'Orient, à l'époque, pour les peuples de Palestine, c'est pas la Chine ou le Japon. Généralement, ils parlent de la Mésopotamie, c'est-à-dire un voyage d'environ 2000 kilomètres. En traversant tout le croissant fertile pour arriver jusqu'en Judée. Oui, parfois en lisant le texte biblique, on a l'impression que tout est immédiat dans le récit. Parce qu'en fait, le récit ne nous donne pas les durées de temps. Il ne nous dit pas 3 semaines après, 1 mois après ou le lendemain. Mais en fait, ils ont dû mettre des semaines pour faire ce trajet. Donc Marie et Joseph ont dû quand même rester quelque temps dans leur famille à Bethléem après la naissance de Jésus pour que eux les trouvent encore à Bethléem. Et je suis désolé, je vais peut-être casser un autre cliché, mais les mages n'ont jamais croisé les bergers. Les bergers sont arrivés le soir même, les mages des semaines après. Et même plus, les mages n'ont pas vu Jésus dans la mangeoire. Il n'y avait pas de place dans la maison à cause du recensement quand Marie et Joseph sont arrivés. Donc pour la naissance, oui, Marie et Joseph sont dans la partie de la maison qui est commune avec les animaux. Mais ensuite, quand ça s'est vidé un peu, ils sont quand même dans la famille de Joseph. Ils ne sont pas dans un hôtel ou une hôtellerie comme beaucoup d'histoires de Noël le racontent. Ils sont dans la famille de Joseph et ils ont été logés dans la maison avec la famille les semaines suivantes. Et d'ailleurs, le texte de Matthieu chapitre 2 nous dit ceci à propos des mages. « Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précéder. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison. » Virent l'enfant avec Marie, sa mère. Voyez, en fait, le folklore, hein, l'imaginaire populaire, modifie parfois les événements par rapport au texte biblique. Mais il n'empêche que rejoindre le Christ, après avoir entendu l'appel de Dieu, pour les mages, c'est autre chose que pour les bergers. Un chemin très très long, dont on ne connaît pas les détails, mais qui peut nous rappeler peut-être notre propre histoire personnelle. Certains d'entre nous sont comme les bergers. Ils reçoivent de Dieu un appel clair, lumineux, et ils le rejoignent dans l'instant, sans hésiter. D'autres sont comme les mages. L'appel est plus discret, plus personnel, et le chemin de vie pour rejoindre Dieu peut être beaucoup, beaucoup plus long. Peut-être même que certains parmi nous sont encore sur ce chemin, celui qui mène à Dieu. Ce chemin peut prendre du temps. Et Dieu a prévu un temps pour chacun et chacune. Recevoir l'appel de Dieu, puis le rejoindre à notre rythme. Mais une fois que nous recevons le Seigneur dans notre vie, une fois que nous l'avons rencontré, rejoint, là, nous vivons tous et toutes quelque chose de semblable. Pouvoir adorer Dieu dans la joie. Ce fut le cas pour les bergers après leur courte marche pour rejoindre le Christ. Et nous lisons en Luc chapitre 2, « Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qu'il leur avait été dit au sujet de l'enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent, louant et glorifiant Dieu, au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Adorer Dieu dans la joie. » Ce fut le cas également pour les mages en Matthieu chapitre 2. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Adorer Dieu dans la joie. C'est aussi notre cas encore aujourd'hui pour tous ceux et celles qui rencontrent le Seigneur, qui reçoivent son pardon, son salut, sa vie, la joie et l'adoration. Avec cette promesse de Jésus lui-même en Luc chapitre 15, « Je vous l'assure qu'il en est de même au ciel, il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. » Si aujourd'hui vous êtes ici parce que vous commencez à entendre l'appel de Dieu, si vous êtes sur ce chemin qui mène à lui, qui peut être parfois long, ça dépend. Si vous êtes sur ce chemin pour le rejoindre, sachez que même si ce chemin de vie est long et difficile comme celui des mages, c'est bien la joie qui vous attend au bout. La joie de rencontrer le Seigneur et de l'adorer d'un seul cœur avec tous ceux et celles qui croient en lui. La joie de son pardon, la joie de sa vie, la joie de faire partie de la famille de Dieu. Si vous en doutez, vous pouvez relire le récit de Noël et voir la joie de ceux qui rencontrent le Christ. Et si même après ça, vous en doutez encore, eh bien demandez à ceux et celles qui l'ont déjà rencontré. Ils pourront vous témoigner de la joie profonde que vous y trouverez et de l'immense cadeau, du bonheur immense de pouvoir adorer Dieu avec nos frères et sœurs dans le Seigneur. Être appelé par Dieu, le rejoindre, l'adorer dans la joie. On aimerait que l'histoire s'arrête là, et que cette adoration et cette joie continuent simplement pour toujours. Mais ça continue. L'histoire continue pour quelque chose également, je pense, de merveilleux. Pas toujours simple, mais merveilleux. Pouvoir maintenant suivre le Seigneur, le rejoindre dans sa volonté, le rejoindre dans ses œuvres, participer à son plan et à ses promesses avec tous les autres croyants. C'est merveilleux. Et la joie de rencontrer le Christ nous y accompagne, mais ça ne signifie pas que ce nouveau chemin qui commence sera de tout repos. Pour les bergers, le texte ne nous dit rien à ce sujet. Mais j'imagine qu'ils sont quand même retournés auprès de leur troupeau. Et pour eux, la vie a sans doute repris son cours, et peut-être même sans grand changement. La même routine, les mêmes activités. Ça pourrait en décevoir quelques-uns. Une rencontre incroyable avec le Seigneur et la routine qui revient. Mais ils pouvaient alors vivre cette vie avec un cœur différent, avec des motivations différentes, avec une relation à Dieu transformée. Et ça, ça change tout. Pour les mages, l'adoration a vite fait place au danger. En effet, le roi de la région, Hérode, voulait tuer l'enfant qui était né. Et il comptait sur les mages pour lui donner des informations. Mais nous lisons en Matthieu chapitre 2, « Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. » Et là, pour eux, comme à l'aller, c'est toujours un voyage très long et pénible qui les attend. Mais cette fois, ils le font avec la joie de la rencontre avec le Christ. Ils le font également avertis, guidés, conseillés par Dieu sur ce nouveau chemin de vie. Pour Marie et Joseph, c'est encore autre chose. Ils avaient déjà rejoint Dieu dans son plan de salut en quittant Nazareth pour Bethléem, comme Philippe nous l'a raconté. C'était déjà pas simple, en fin de grossesse. Mais continuer à suivre Dieu sera encore plus périlleux et difficile pour eux. Ils sont menacés par Hérode. Ils doivent fuir, loin et vite. Et voici ce que nous dit le texte. Un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. » Joseph se leva donc et partit dans la nuit, emmenant l'enfant et sa mère pour se réfugier en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Si vous rencontrez le Seigneur, si vous l'acceptez dans votre vie, oui, vous connaîtrez vous aussi cette joie de recevoir l'amour et le pardon de Dieu. Vous connaîtrez cette joie d'adorer Dieu d'un même cœur avec vos frères et sœurs en Christ. Vous connaîtrez cette joie de pouvoir participer à faire la volonté de Dieu. Mais je ne peux pas vous promettre que ce chemin de vie chrétienne sera doux, paisible et sans embûches. Parce que c'est faux. Persécution, moquerie, parfois simple indifférence, lutte intérieure avec nos mauvais désirs d'autrefois. Les difficultés ne manquent pas. Mais n'oubliez pas le plus important dans le récit de Noël, c'est que lorsque nous suivons Dieu dans sa volonté, il prépare toutes choses. Il conduit, il guide, il protège ses enfants. C'est lui qui avertit les mages du danger. C'est lui qui protège Marie et Joseph et les guide jusqu'en Égypte en sécurité. Et c'est lui encore aujourd'hui qui nous conduit, notamment par sa parole, la Bible, par son Saint-Esprit également en nous, et qui nous console, qui nous fortifie par son Esprit. Être appelé par Dieu, le rejoindre, l'adorer dans la joie, puis le suivre. Voilà, je pense, le cœur des événements du récit de Noël. Voilà aussi, finalement, le cœur des événements de la vie de tous les enfants de Dieu, encore aujourd'hui. C'était le cas hier. Ce sera aussi le cas demain, également. Ce n'est pas simple. Mais je le pense sincèrement. Voilà une vie qui a du sens. Beaucoup de monde, aujourd'hui, se pose la question : quel sens a ma vie ? Voilà une vie qui a du sens, parce que la vie humaine n'a de sens que dans la rencontre avec Dieu. Amen.